Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Bitteau, vice-président de la Libre Pensée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Quentin Dauphiné, représentant du courant Émancipation. Quentin, bonjour. Peux-tu nous préciser brièvement ce qu'est Émancipation ?
Oui, bonjour Christophe. Alors, Émancipation, c'est une tendance syndicaliste constituée de militantes et de militants qui sont pour la lutte de classe, pour l'expropriation des grands moyens de production et d'échange, et bien entendu, pour la laïcité. Ce terme même d'émancipation, c'est une référence au syndicalisme enseignant des origines, puisque la première fédération syndicale enseignante, en 1906, se dote d'une revue interne, dont le nom, justement, est Émancipation. Donc c'est une manière de se rattacher à cet héritage syndical.
Merci pour cette précision historique. Alors, les 21 et 22 septembre 2020 se tiendra le 8e congrès mondial de l'Association internationale de la libre pensée à Madrid en Espagne. Le thème central sera « École laïque et laïcité de l'enseignement ». Nous comptons inviter les associations de libre pensée, athées, humanistes, laïques, les obédiences maçonniques et les organisations syndicales à y participer et y intervenir pour faire part de leur point de vue sur ce thème. Ma première question sera donc très simple. Émancipation participera-t-elle à ce congrès mondial ?
Alors pour y répondre directement, je dirais oui, dans la mesure de ses possibilités et pour deux raisons essentielles. D'abord, car l'internationalisme, aujourd'hui, c'est une dimension qui est indispensable pour affronter toute une série de problèmes fondamentaux qui se posent à l'humanité. Deuxièmement, ce type d'initiative a toute sa pertinence, en particulier en matière de laïcité. Et là, je vais expliquer un peu, parce qu'elle permet déjà de rappeler que la laïcité n'est pas une spécificité française, n'est pas uniquement le produit de circonstances politiques dans un pays donné. La laïcité et son corollaire, la laïcisation des institutions, c'est un processus historique qui prend corps dans beaucoup de pays et qui accompagne d'une manière générale tout mouvement d'émancipation politique et sociale. Et je signalerai que, de mon point de vue, une telle initiative a aussi une pertinence pour une troisième raison, c'est qu'elle permet de voir très concrètement qui sont en réalité les menaces et les ennemis de la laïcité. Puisque dans les pays capitalistes développés riches, comme la France, ce ne sont pas les immigrés présumés musulmans qui constituent une menace pour la laïcité. Ce sont plutôt des forces réactionnaires de droite ou d'extrême droite, parfois liées à l'Église catholique directement, qui en plus de défendre le capitalisme, sont souvent imprégnées d'idéologies cléricales, de sexisme, d'homophobie. Et de ce point de vue, se décentrer un peu du contexte franco-français permet de s'en apercevoir très facilement. Et je crois que c'est utile dans un contexte où en France, ces mêmes forces qui savent que la laïcité est un principe auquel la population est attachée, je dirais donc ces mêmes forces, elles essayent d'instrumentaliser ce concept pour promouvoir en réalité leur marchandise idéologique un peu avariée, fondée sur le racisme et la xénophobie.
Alors la libre pensée est très attachée à la séparation de l'Église et de l'État, au principe juridique de laïcité tel qu'il fut défini par la loi du 9 décembre 1905, puisque la libre pensée y a activement contribué. Mais c'est toujours un combat d'actualité. Aujourd'hui, alors que le président Macron a déclaré le 9 avril 2018, devant la conférence des évêques de France tout de même, qu'il fallait, je cite, « réparer le lien entre l'Église catholique et l'État », la libre pensée, quant à elle, estime que rien n'est jamais acquis et se tient prête à se mobiliser contre toute remise en cause de la loi de 1905. Quel est ton point de vue sur cette question ?
Je partirai d'un constat que tout le monde peut faire aujourd'hui, à savoir que la politique de Macron, c'est de démanteler l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques de ce pays de manière brutale. Et j'en profiterai en passant pour saluer mes collègues et camarades des écoles et établissements du Centre Var, puisque je travaille dans le Centre Var, qui sont réunis en ce moment même en Assemblée Générale pour préparer les suites de la lutte pour le retrait de la réforme des retraites. Et j'en profite aussi pour saluer les mobilisations des personnels de Radio France sur le même sujet. Et pour revenir directement à ta question, Dans la mesure où la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire la loi du 9 décembre 1905, est un acquis démocratique, il est assez logique que ce pouvoir cherche à la démanteler. Et comme tu l'indiques, de ce point de vue-là, rien n'est acquis. D'ailleurs, l'année dernière, le gouvernement avait déjà préparé le terrain à une modification, c'est-à-dire en fait à une dénaturation, de la 1905. Il semblerait que ce pouvoir, maintenant, cette année, remette le couvert, n'ait pas abandonné le projet. Et d'ailleurs, les récentes déclarations sur le séparatisme islamiste s'inscrivent dans cette perspective, puisqu'il s'agit pour lui de développer une logique concordataire, d'organiser la tutelle de l'État sur le culte musulman, sous couvert de l'organiser, c'est-à-dire en fait légitimer une surveillance policière et étatique d'une population pointée du doigt. Je ne fais pas de procès d'intention, puisqu'il y a quelques jours, la libre pensée a été reçue par le ministre de l'Intérieur.
Absolument.
Des propositions très concrètes y ont été présentées, et certaines d'entre elles nécessiteraient visiblement une modification de la loi. Donc, pour répondre à ta question, oui, en effet, le mouvement ouvrier démocratique devra se rassembler dans l'unité pour agir contre toute modification de la loi de 1905 sous des formes à définir, par exemple une manifestation nationale.
De notre point de vue, la laïcité de l'école est tout aussi essentielle que la laïcité de l'État. La libre pensée continue à se battre pour l'abrogation de la loi Debré qui autorise le financement par l'État des écoles privées, d'ailleurs à 97% catholiques, il faut le dire. Et le slogan « à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés », que d'aucuns considèrent être une vieille lune, conserve à nos yeux, aux yeux de la libre pensée, toute son actualité. Que penses-tu de ce slogan et de cette revendication ?
Cette question est en effet majeure, c'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr de se mobiliser contre toute nouvelle atteinte à la laïcité institutionnelle. En même temps, la situation actuelle n'est pas totalement satisfaisante. Et en particulier, en effet, la loi Debré, qui organise ce financement de l'enseignement privé, la loi Debré est un contournement majeur de la loi de 1905 dans le domaine scolaire, c'est-à-dire que l'État finance un réseau scolaire concurrent du réseau scolaire public. Et donc, la revendication fonds publics pour l'école publique, fonds privés pour l'école privée, est absolument indispensable. Rappelons qu'aujourd'hui, les subventions de l'enseignement privé représentent plus de 7 milliards du budget de l'éducation nationale. Et je dirais que il faut peut-être approfondir un peu le sujet dans la mesure où, de mon point de vue, l'enseignement privé, et tu as raison, confessionnel, à 97% catholique, joue un rôle social négatif. De plusieurs points de vue. D'abord pour la jeunesse. Parce que je dois rappeler que les écoles privées sont sous la tutelle du secrétariat général de l'enseignement catholique. Il ne s'agit donc pas d'un enseignement neutre, mais d'un enseignement au service d'une œuvre pastorale, c'est-à-dire d'une conquête ou d'une reconquête des esprits et d'une œuvre d'évangélisation. Et donc l'enseignement catholique, et on dirait que c'est une tautologie, est un enseignement au service du catholicisme. Cela d'ailleurs est dit, il ne s'en cache pas à l'occasion. Par exemple, lors des débats sur la loi sur le mariage pour tous et la manif pour tous qui entendait s'y opposer, qui était d'ailleurs largement financée, organisée par les réseaux de l'Église catholique, le secrétaire général de l'enseignement catholique ne s'est pas privé d'envoyer un courrier au chef d'établissement de l'enseignement privé pour les inciter, je cite, à prendre des initiatives dans ce contexte, c'est-à-dire en d'autres termes, à faire un travail de propagande politique et religieuse auprès des jeunes et des parents. Alors, je disais rôle social négatif, aussi d'un autre point de vue, je dirais du point de vue de l'organisation d'un séparatisme social. Je prends à dessein le terme séparatisme. Séparatisme social dans la mesure où, normalement, le but de l'école est de favoriser les relations entre les jeunes qui n'auraient aucune raison de se croiser dans les circonstances de la vie courante du fait de leurs diverses origines sociales ou culturelles. Avec un réseau d'enseignement privé, on sépare les jeunes dès l'enfance, on reproduit de manière anticipée la séparation qu'ils connaîtront plus tard du fait des différences de classe. Et puis, troisième aspect, l'enseignement privé, par son existence, contribue à exacerber la concurrence entre établissements, y compris dans le public, sert de laboratoire pour transformer l'enseignement public selon des méthodes managériales. Et pour conclure sur cette question, et là j'aurais une nuance avec la libre pensée, je dirais qu'il en va de l'institution scolaire comme des services publics en général. C'est-à-dire que sa dénaturation aujourd'hui, ça prend la forme de la mise en concurrence avec un secteur privé et donc d'une privatisation rampante. Et c'est pourquoi ce qu'on nomme le dualisme scolaire, ces deux réseaux concurrents d'enseignement, de mon point de vue, il n'y a pas lieu d'être. Et donc, de même que nous sommes favorables à l'émancipation, au retour au monopole du service public pour les services publics partiellement privatisés et mis en concurrence, comme la Poste ou comme très bientôt la SNCF, nous sommes pour le monopole du service public d'éducation et donc la fin du dualisme scolaire. Et de ce point de vue-là, nous sommes partisans de ce qu'on appelle la nationalisation laïque de l'enseignement privé sous contrat, qui est une vieille revendication du syndicalisme enseignant et notamment du CNAL, le Comité National d'Action Laïque.
Alors, tu as parlé tout à l'heure des différentes classes sociales qui pouvaient se retrouver au sein de l'école publique. Tu as précisé que ton courant émancipation militait pour l'abolition du capitalisme. Ça m'amène à te poser une question assez brève. Si l'idéologie dominante est toujours l'idéologie de la classe dominante, peut-on construire un enseignement libérateur sans émancipation sociale et économique, ou, autrement dit, peut-il y avoir une pédagogie libératrice, émancipatrice, sans même qu'il y ait une révolution politique?
Alors ça, effectivement, c'est un vieux débat dans le syndicalisme enseignant et dans les courants révolutionnaires. Alors, de mon point de vue, un enseignement libérateur ne peut être lié, effectivement, qu'à une perspective globale d'émancipation sociale et économique. Mais ça ne signifie pas qu'il faille attendre la révolution pure, l'émancipation sociale et économique intégrale, pour construire un enseignement émancipateur. C'est-à-dire que l'enseignement émancipateur, il peut se mettre en place dès maintenant. Il est évident que l'émancipation de l'individu ne passe pas seulement par l'école, mais que l'école peut y contribuer. Et quand je dis peut se mettre en place dès maintenant, ça implique que les pratiques pédagogiques ne sont pas neutres, elles reflètent une certaine conception des rapports sociaux, et ces mêmes pratiques, elles contribuent avec les savoirs, avec les contenus, à la constitution de repères, de grilles d'analyse, dont le jeune devenu adulte pourra ensuite s'emparer, soit pour les approprier, se les faire siennes, soit pour les abandonner en tout ou en partie, soit pour les critiquer, et pour ainsi devenir un citoyen libre, capable de contribuer à la transformation de la société et du monde.
Alors, ce que tu viens de développer m'amène à élargir peut-être un petit peu la discussion, ce qui fera débat lors de cette rencontre de Madrid. Je voudrais faire une citation de Francisco Ferrer, qui, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, était un libre penseur, un libertaire, un franc-maçon et également un pédagogue. Voilà ce qu'il écrivait. « Notre enseignement n'accepte ni les dogmes, ni les usages, car ce sont là des formes qui emprisonnent la vitalité mentale. » Nous ne répandons que des solutions qui ont été démontrées par des faits, des théories ratifiées par la raison et des vérités confirmées par des preuves certaines. L'objet de notre enseignement est que le cerveau de l'individu doit être l'instrument de sa volonté. Nous voulons que les vérités de la science brillent de leur propre éclat et illuminent chaque intelligence, de sorte que, mises en pratique, elles puissent donner le bonheur à l'humanité, sans exclusion pour personne par privilège odieux. Fin de citation. Qu'est-ce que pour vous l'école laïque, et pensez-vous, à l'instar de Francisco Ferrer, que la laïcité soit l'émancipation pleine et entière de l'enseignement?
Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'école laïque est bien sûr indispensable pour protéger tout endoctrinement, puisque l'école laïque est une école séparée de toute religion. C'est une école aussi indépendante de tout dogme, alors bien sûr religieux, mais aussi philosophique, politique, étatique. Et cela signifie que les dogmes et les idéologies ne sont pas niés, mais sont pris comme des objets d'étude, c'est-à-dire des éléments, des réalités qui doivent être passés au crible d'une méthode critique, d'une méthode rationnelle d'analyse, éventuellement être critiqués en connaissance de cause. Et donc, de ce point de vue, la laïcité, en tant que séparation des églises et de l'État, et en tant que garantie du respect des opinions de toute nature, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, c'est un cadre indispensable, c'est une condition nécessaire à l'émancipation pleine et entière de l'enseignement, comme tu le dis. Et un enseignement émancipateur, ça passe aussi, et de manière assez incontournable, par aussi des contenus, c'est-à-dire des programmes, des champs disciplinaires, des méthodes et pratiques pédagogiques, et bien entendu, la question de l'apprentissage progressif de la démocratie par le jeune.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je vais te poser une dernière question. N'oublions pas que notre rencontre à Madrid sera une rencontre internationale, un congrès mondial. Donc, ma dernière question sera celle-ci, Quentin. La laïcité de l'école, est-ce un modèle unique ou divers à travers le monde, les peuples et les cultures?
Alors, plutôt que de modèle unique, je dirais que la laïcité de l'école devrait être un principe universel. Pourquoi universel? Parce que tout être humain, au-delà bien sûr des différences entre peuples, entre cultures, entre histoires, doit avoir droit à l'émancipation de sa personne, à l'émancipation intellectuelle, à l'autonomie de sa pensée et au développement de l'esprit critique. Cela dit, on ne peut pas non plus faire de la laïcité un dogme. Et je pense que de ce point de vue, on revient au point de départ, à la loi de 1905, c'est un principe d'organisation des pouvoirs publics, ce ne sont pas des valeurs culturelles ou religieuses particularistes, c'est un principe général d'organisation des pouvoirs publics qui a une valeur universelle.
Eh bien Quentin, je te remercie, nous prolongerons ce débat, je l'espère, ensemble à Madrid avec d'autres intervenants. Et à ce sujet, le mois prochain, notre invité sera un représentant de la Fédération de l'Éducation nationale de la CGT. Chers auditeurs, je vous remercie.